Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore dans cette très belle émission À ta santé sur Eau de Radio 91.3, la radio des Hauts-de-Garonne. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Valérie Sébastiani, vigneron, graphothérapeute installée presque tout près, on pourrait dire, du studio à ce nom, et qui va nous présenter bien sûr la graphothérapie. Et oui, on a hâte de découvrir. Écoutez-nous bien. Donc voilà, bonjour Valérie, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bon, tout va bien, bien installé.
C'est pas... Ça va, très bien.
Donc on revient très vite vers toi pour développer ce thème, le thème principal de cette émission. Alors aujourd'hui, un petit changement. Je vous demande presque de l'applaudir chaleureusement, Nicolas, qui aujourd'hui fera la technique de cette belle émission, sans qui cette émission n'aurait pas pu se dérouler. Donc merci beaucoup, Nicolas, et bonjour. Tout va bien, toi aussi ? Ah, je le prends du pourvu.
Tout va bien, super. Merci beaucoup. Et ben, c'est avec plaisir que je suis avec vous. Et bonne année, surtout aussi. Je ne sais pas si tu avais déjà fait une émission en 2020.
Oui, j'avais déjà fait une. Mais ça fait encore bonne année à toutes et à tous. Et à toi, Nicolas. Et merci encore beaucoup de ta participation. Voilà. Donc là, presque, nous sommes maintenant presque tout à fait prêts pour démarrer cette émission. Alors maintenant, vous y êtes habitués. Chaque semaine, un instant poésie pour démarrer tout en douceur, pour vous permettre de nous installer, vous comme nous, dans les meilleures dispositions, vous pour nous écouter, bien évidemment. Vous pouvez même respirer à fond, ensuite à votre rythme, calmement, et de toute façon en pleine conscience. Et si nous avons le temps aussi, nous aurons, comme chaque semaine, un instant info santé. Alors maintenant, plus qu'une poésie, un texte d'un auteur qui n'a pas laissé son nom, en lien direct avec notre thème du jour, je vous lis ce texte. Il s'intitule « Écrire encore et toujours ». Écrire pour vivre, écrire pour se décrire, écrire pour apprendre, comprendre, écrire pour exister, écrire pour inventer, se réinventer, écrire pour être là, présent, écrire pour dire, pour décrire, écrire pour chanter, danser, jouer, écrire pour aimer, adorer, écrire pour lire, écrire pour survivre, écrire pour crier « Tout est possible », écrire pour dire « Tout ». Ou presque. Écrire tout simplement. Écrire encore et toujours. Voilà. C'est le texte. Je ne sais pas ce qu'en pense Valérie.
Très beau. Moi, j'aime beaucoup et c'est vrai. C'est criant de vérité, pardon.
Bon, merci en tous les cas, surtout pour l'auteur inconnu qui se reconnaîtra sûrement. Donc merci. Et maintenant, donc, après cette belle poésie, n'hésitez pas en tous les cas, si vous voulez, à nous dire ce que vous pensez de l'émission, pensez de ce texte. Cette émission, c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à partager, à communiquer. Pour nous joindre, toujours pareil, le même numéro de téléphone, le 06 19 24 77 deux fois, ou aller sur le site de la radio eau-de-radio.net ou sur notre page Facebook À ta santé. Voilà, donc là, c'est là où notamment j'avais en tous les cas annoncé le thème précis de l'émission et aussi j'ai annoncé une surprise. Alors cette surprise, il faut écouter jusqu'à la fin de l'émission très attentivement, vous allez voir, vous serez surpris. Alors maintenant, je me tourne vers Valérie et je vais lui poser cette question toute simple. C'est quoi la graphothérapie ?
Donc la graphothérapie, c'est la rééducation de l'écriture. Et donc, à savoir, le geste et la posture d'écriture, ce qui est très important si on veut avoir une belle écriture. Alors, là, il faut bien faire attention. Moi, je suis graphothérapeute rééducatrice en écriture. Et il ne faut pas confondre avec graphologue, parce que les graphologues analysent l'écriture et grâce à votre écriture, ils peuvent en déduire les caractéristiques psychologiques de votre personnalité.
D'accord. Voilà. Là, c'est vraiment sur l'écriture.
Et moi, je travaille dans la rééducation, donc la posture et le geste d'écriture. Et je ne suis pas là pour juger l'esthétisme de l'écriture. Donc, pour moi, les écritures, elles sont ni belles, ni moches, ni laides. Voilà. Elles sont juste fluides, lisibles, et on apprend surtout à écrire de façon rapide. Et le plus important de la graphothérapie, c'est écrire, avoir un maximum d'efficacité sans douleur.
D'accord.
Et ça, c'est important. Parce que généralement, on écrit et puis on a mal au poignet, au coude, à l'épaule. Et bien voilà, la graphothérapie aide à ne plus avoir mal.
Donc là, on travaille sur la posture.
Sur la posture d'écriture.
Du maintien du stylo, hein, dans, directement, ou de l'objet avec lequel on écrit, jusqu'à la position par rapport à la feuille sur laquelle on écrit.
Tout à fait.
Tout ça est important. Et ça s'adresse à quel public ? Il y a un public privilégié ou tout public peut être intéressé ?
Tout public. Vraiment, voilà, dès le passage en CP, parce que bon, y a quand même à la maternelle où on apprend le graphisme, je vais développer en juillet et en août des stages intensifs de 4 séances par semaine pour les enfants de grande section qui vont passer en CP. Et sinon, à partir du CP jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, en fait.
D'accord. Mais plutôt, tu vois plutôt préférentiellement des enfants qui te sont amenés pour cette problématique au niveau de l'écriture.
Actuellement, j'ai tous les âges.
Tous les âges. Ouais. Mais l'adulte, alors, aussi, dans le domaine professionnel, aussi.
Oui.
Pour cette, au niveau des douleurs, effectivement, l'adulte
sont importantes, oui.
Peut être concerné. Donc, en préparant l'émission, en fait, j'ai trouvé au niveau de l'histoire, hein, du début, de la genèse, on va dire, de la graphothérapie, j'ai vu citer Robert Olivo. Mais tout à l'heure, en préparant l'émission ensemble, tu me disais que ça remontait encore un peu au-delà de cette personne.
Le pionnier, c'est Julien Ajuria-Guerra. Ça date des années 60. Parce qu'en fait, graphothérapeute, c'est pas un métier récent, c'est un métier qui date des années 60, mais on n'entend pas parler et on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. Et moi, je travaille un peu avec sa cotation à lui, parce qu'il a créé une fiche de cotation, mais surtout avec une fiche de cotation de l'écriture, mais de façon dynamique. Donc, c'est une échelle de cotation beaucoup plus récente qui date des années 2000, en fait.
D'accord. Donc, le premier médecin, c'était... excuse-moi, après-guerre, c'est ça ? Non.
Les années 60.
Les années 60, d'accord. Pas bien. D'accord. Et Robert Olivo, c'est beaucoup plus récent, donc, dans les...
Plus récent. Après, lui, il n'a pas fait de fiche de cotation, Robert Olivo. Il a vraiment écrit sur la graphothérapie et la rééducation de l'écriture, mais voilà, moi, je travaille avec une autre méthode.
D'accord. Donc, par exemple, pour se mettre un peu en situation de ton cabinet, donc, on dit que tout âge, hein, à partir du CP, c'est donc les personnes que tu reçois à ton cabinet. Mais donc, comment viennent-ils ? Parce que ça a été diagnostiqué par à l'école, ça a été diagnostiqué par un médecin, ça a été diagnostiqué ou dans le domaine professionnel, il y a une gêne qui s'exprime. Comment ça se passe effectivement pour aller solliciter la graphothérapeute que tu es ?
Généralement, c'est les parents qui sont... Voilà, quand ils voient l'écriture de leur enfant, qui... Généralement, les parents disent « Oui, il n'écrit pas bien » ou « Il ne sait pas écrire ». Voilà, et qui viennent vers moi, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin avant ou d'aller voir un autre spécialiste pour venir me rencontrer.
Il n'y a pas besoin, mais ça peut se faire aussi.
Mais ça peut se faire, tout à fait. Ouais. Voilà, par exemple... des enfants qui sont déjà diagnostiqués avec une dyslexie, une dyscalculie, enfin tous les troubles dys qui existent, malheureusement il y en a beaucoup, et on leur préconise des fois d'aller voir une graphothérapeute parce qu'effectivement ça aide pour l'écriture.
D'accord. Les orthophonistes aussi t'envoient parfois des...
Ça peut. En tout cas, moi, je sais que... Voilà, je leur en envoie parce qu'il y a des problèmes sur la lecture. Mais je sais qu'il y a des orthophonistes, oui, qui envoient. Parce que, justement, elles ne sont pas spécialisées dans la préhension du stylo ou dans la posture d'écriture, qui est très importante.
La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était du reste au club des entreprises de ce nom. Hein. Et donc, j'ai envie de te poser la même question, enfin la même interrogation que j'avais ce jour-là. La différence, effectivement, majeure, pour que ce soit assez clair et le plus clair possible pour les auditrices et auditeurs, entre la différence entre toi, graphothérapeute, et l'orthophoniste. Évidemment, il y en a une très importante, mais j'aimerais vraiment que tu la développes.
Alors, l'orthophoniste, elle est rééducatrice des troubles phonatoires, de l'appareil phonatoire, donc au niveau des sons, donc c'est particulièrement la lecture. Et moi, je travaille sur l'écriture. Voilà la différence, en fait, majeure.
D'accord. Et donc, évidemment, on vise, en tous les cas, chez ces personnes. Donc, tu parlais de la douleur. Mais donc, il y a toute une série, un florilège de situations difficiles parce que, justement, l'écriture n'est pas en place. qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça provoque effectivement, et qu'est-ce que tu vas corriger. C'est-à-dire que ça peut aller, donc la douleur, tu as dit, en écrivant, mais un malaise, un mal-être, un mal-vivre,
redonner confiance déjà, parce que c'est important, parce que généralement, les personnes qui ont une écriture... Alors, on ne parle pas, nous, d'esthétisme, hein, on parle vraiment d'illisibilité.
D'accord.
Ces personnes-là entendent toujours « Oui, ton écriture, elle est moche, tu ne sais pas écrire. Voilà. » Et donc, du coup, ils se renferment sur eux-mêmes.
Bien sûr.
Ils ne s'ouvrent pas aux autres et ils sont... Ouais, ils vivent vraiment le mal-être.
D'accord. Et donc, en venant chez toi, en consultation, d'abord, c'est combien de consultations qui sont nécessaires pour... Enfin, c'est variable, j'imagine.
Ça dépend du degré, oui.
Bien sûr. Mais grosso modo, on a...
Une moyenne de 20.
De 20 séances.
De 20 séances, de 40 minutes.
On sent les choses qui commencent à se mettre
alors,
en place.
Petit parfois, à petit. Ça peut aller plus vite. Et parfois, hélas, ça peut aller plus longuement. Ça dépend aussi ce que la personne en fait de cette rééducation.
Bien sûr.
C'est-à-dire que si elle n'est pas investie dans la rééducation, ben forcément, c'est plus long.
Est-ce qu'elle le vit bien? Est-ce qu'elle l'intègre? Est-ce qu'elle devient actrice ou acteur de cette rééducation? Et si elle a bien envie de... Parce que, évidemment, parfois, on n'a pas toujours envie de changer. Hein, même quand on va consulter un thérapeute, il y a ce qu'on appelle les bénéfices secondaires à quelque chose. Est-ce qu'on peut y avoir des bénéfices secondaires à mal écrire?
Des fois, on a envie de changer... Mais on ne s'en donne pas forcément les moyens. C'est-à-dire que même quand on va donner des conseils, les gens, ils ne vont pas les suivre.
Oui.
Voilà. Et donc là, forcément, ça coince aussi, ça ralentit le processus de rééducation. Mais si on donne des conseils, c'est que...
Et tu as des solutions dans ce cas-là, de figure
Je réessaye par autre chose, d'autres moyens. Après, il y a des conseils qui sont très simples et qui ne sont pas coûteuses. Un enfant ou un adulte qui a des problèmes de verticalité, par exemple, qui écrit tout petit, les D, les T, qui sont vraiment minuscules, les L, pour atteindre cette verticalité, on va lui demander de faire des paniers de basket.
D'accord.
Ah oui, donc, c'est pas grand-chose, en fait.
D'accord. Ça peut être dynamique, tu peux avoir...
Voilà. Bien sûr, les paniers de basket, il va les faire chez lui, au stade, peu importe, hein, mais ça fait partie de sa rééducation.
Et dans la rééducation, donc, évidemment, on vous imagine, toi et donc la personne que tu suis, assis derrière un bureau avec un cahier, un crayon. Mais donc, a priori, alors peut-être pas dans un panier de basket, je pense pas que tu en aies dans ton cabinet, non. Comme tu viens de le dire, sur la maison. Mais donc, il y a aussi donc, se réapproprier son corps, faire des exercices peut-être, y compris dans la respiration peut-être aussi.
Je travaille un petit peu la respiration, mais je ne suis pas prof de yoga, alors forcément, c'est un peu compliqué, mais on y travaille. Et par contre, on est, assis chacun d'un côté d'un bureau, pas avec un cahier, mais avec des feuilles blanches. Et on travaille avec le stylo, le feutre, ce dont la personne a besoin et ce dont la personne a envie.
D'accord. Parce qu'en préparant l'émission, je voyais aussi qu'on pouvait peindre, qu'on pouvait travailler avec la pâte à modeler, avec un certain nombre d'outils plutôt ludiques, on va dire.
Tout à fait.
De manière, effectivement, à travailler aussi de ses mains,
de ses doigts, de la dextérité, en fait.
Très bien. Alors, au niveau de la formation, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je notais effectivement, et ça revient au propos que je viens de tenir juste précédemment avec toi, au niveau de la respiration, je voyais que la formation de graphothérapeute, peut-être qu'elles ne sont pas toutes concernées par ça, inclut des techniques de relaxation, des techniques, des notions d'apprentissage, bien sûr, de la lecture aussi, des notions anatomiques, des notions de développement de l'enfant, des notions psychologiques, etc. Tout ça, c'est vraiment donc une formation très complète, on va dire.
Très complète. Et moi, je l'ai complétée par une formation en neurologie fonctionnelle.
D'accord. Qui a donc
apporté beaucoup sur la posture d'écriture.
Sur la posture, d'accord.
La personne qui va venir... Elle a une écriture illisible, oui, mais elle n'a pas besoin de moi pour le voir, elle le sait. Par contre, je vais chercher pourquoi.
D'accord.
Et ça, c'est le plus important, c'est pourquoi ça.
D'accord. Et on trouve tout le temps?
On essaye. C'est pas toujours facile, mais on essaye.
Oui, parce que c'est évidemment le nerf de la guerre, comprendre le pourquoi des choses. Hein,
oui.
Quelle que soit la technique, la thérapie que l'on envisage, c'est sûr que si on arrive à trouver la cause, on a déjà bien avancé.
Exactement.
Donc là, effectivement, cette formation que tu as complétée t'a permis d'aller un peu plus loin dans l'observation, et en tous les cas dans la prise en charge aussi hein, de cette personne qui viendrait te voir. J'ai aussi vu en préparant un peu l'émission, j'ai un peu travaillé, hein, c'est bien. On parle aussi d'activité en graphomotricité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, la graphomotricité, qu'est-ce que c'est c'est inclus effectivement à la graphothérapie?
Oui, mais c'est le geste,
c'est le
en
geste.
Fait, vraiment.
D'accord.
D'écriture avec. On ne fait pas des lignes d'écriture.
Mais oui.
On va vraiment travailler ce qu'on appelle sur le tracé glissé. Et bon, à la radio, c'est pas facile d'expliquer.
Non, j'en conviens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être...
C'est pour ça que je fais des journées portes ouvertes, en fait, c'est pour montrer.
Alors, les journées portes ouvertes, justement, c'est...
Alors, c'est vendredi 17 et samedi 18.
D'accord.
De 9h à 18h30.
D'accord. À ton cabinet, qui
à
est à Senon, comme je disais.
Qui est au 29 rue de la Paix, à Senon.
D'accord. Donc il y a possibilité, on réindiquera toutes tes coordonnées et possibilités de s'y rendre pour découvrir. Oui, parce que c'est vrai que c'est non pas étrange, hein, parce que ça paraît très simple, très facile. On voit bien, mais je pense qu'on ne voit pas toute l'étendue de ce que peut permettre et ce que ton activité peut permettre de prendre en charge. Je pense que ça doit être trop souvent cantonné, comme tu viens de le dire, à faire des lignes d'écriture. Pour autant, c'est vrai que les Chinois, en tout cas, qu'est-ce que tu penses donc de cette écriture
calligraphique.
Ouais, calligraphie, c'est magnifique. Hein,
c'est magnifique, vraiment. Et puis, ils font ça tellement avec souplesse
oui.
que, ben, justement, voilà, il faudrait qu'on s'en inspire parce que c'est vraiment, c'est beau.
Oui.
Et ça leur demande pas forcément d'effort puisque c'est juste, dans le mouvement en fait. Ils écrivent dans le mouvement.
Et c'est surtout après la satisfaction d'arriver à le faire, j'imagine. C'est ça le grand intérêt.
Ah oui.
Ça rejoint un peu, j'avais déjà fait dans cette émission à ta santé, un thème sur l'art-thérapie, entre autres, effectivement, la peinture, enfin l'expression, tout ce qui sort, et dont l'écriture aussi, l'écriture enfin, d'associer des mots pour faire des phrases, mais aussi la manière de l'écrire et comment l'écrire. Je crois que c'est important. Et là, ça rejoint... Donc il y a ce côté que je vois, enfin, ou que j'extrapole peut-être, sans vraiment bien le maîtriser. Hein. Je ne suis pas le professionnel, c'est toi, hein, le professionnel, là-dessus. Mais ce côté, je sors quelque chose de moi, je fais quelque chose avec mes mains, et je le fais bien, je le réalise, et je le maîtrise bien.
Et j'en suis fier.
Et j'en suis fier. Bien sûr,
c'est ça le plus
important.
Quand
on fait quelque chose de bien, de toute façon, on en est évidemment très fier. Voilà, donc là on a avancé un petit peu, on va bien sûr revenir là-dessus encore plus longuement en compagnie de Valérie, mais d'ores et déjà, si Nicolas, la technique, le permet, j'aimerais qu'on s'accorde la première respiration musicale qui est en lien direct avec le thème de l'émission, puisque le titre s'intitule « On écrit sur les murs », composé en 1989 pour Demis Roussos. C'est pas lui qui va chanter, qui va l'interpréter. Là, c'est une reprise. Ça a été repris plusieurs fois, du reste. Hein. Et là, c'est une reprise de 2015 par le groupe d'enfants, très connu peut-être, mais il faut avoir un âge assez d'âge tendre, on va dire. Hein. Les Kids United, issus de leur premier album qui s'appelle Un monde meilleur. C'était du reste pour une campagne de l'UNICEF. On écoute et on se retrouve juste après en compagnie de Valérie Sébastiani-Vigneron, de Nicolas à la technique et de Thierry. On se retrouve juste après. Merci.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.
Même leur
trace. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs
tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage.
On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Voilà, de retour dans cette très belle émission à ta santé sur Eau de Radio 91.3 en compagnie de Valérie, de Nicolas à la technique et de Thierry, votre serviteur, dont le thème aujourd'hui, c'est la graphothérapie. Voilà, on va essayer d'être assez schématique pour que vous puissiez bien comprendre. Et je voudrais pour cela que nous revenions ensemble, Valérie, si tu l'acceptes, sur la notion de dysgraphie, qui, je le cite, est un trouble qui affecte l'écriture dans son tracé. Jusque-là, es-tu d'accord ?
Je suis d'accord.
Chez l'enfant et l'adolescent, c'est souvent à l'origine d'éventuels échecs scolaires, ou difficultés scolaires, ou retards scolaires.
Oui. Hein,
et puis après tout, ce qui peut aussi arriver à cet enfant sur le regard des autres. Évidemment, il est difficile, effectivement, d'être en échec scolaire, d'être bien inséré au sein de sa classe, et etc., etc. Alors, là où je voulais effectivement un peu plus développer, non pas parce que ça me concerne directement, mais quoique, effectivement, parce qu'elle a regardé mes cahiers, j'écris pas tout à fait bien. J'ai du travail, moi aussi, de ce côté-là. Je vais peut-être aller consulter. Alors, chez l'adulte, justement, ça atteint notamment cette dysgraphie peut atteindre la personnalité et évidemment avoir des répercussions dans la vie quotidienne, mais aussi, bien sûr, professionnelle. Alors, je voulais revenir sur les causes, notamment de la dysgraphie, qui peuvent être diverses. On trouve notamment un apprentissage insuffisant, souvent doublé d'une mauvaise posture et d'une tenue de l'instrument déficiente. Ça, c'est ce que tu as beaucoup insisté tout à l'heure, sur la posture et sur la tenue du stylo, du pinceau. Ça peut être aussi lié à d'autres troubles, comme la dyslexie, par exemple.
Tout à fait, oui.
Tu confirmes cette...
Oui, c'est en lien. C'est vraiment en lien. En général, un enfant dyslexique, il y a de la dysgraphie, et l'inverse est vrai aussi.
D'accord. Donc, effectivement, se méfier. Enfin, en tous les cas, ça doit pouvoir alerter.
Ça doit alerter, tout à fait.
Alerter, en tous les cas. J'ai vu aussi, donc, dans les causes, handicap visuel ou auditif. Ça peut être aussi à nous alerter sur, effectivement, un enfant qui n'entend pas suffisamment bien ou qui ne voit pas suffisamment bien au tableau. Donc, il n'est plus en capacité, puisqu'il ne voit pas assez bien, de recréer, de répéter le geste.
Et justement, par rapport à ma formation supplémentaire que j'ai faite en neurologie fonctionnelle, ça me permet de placer idéalement un enfant devant un tableau.
D'accord.
Parce que je vais repérer son œil neurologique, je vais faire aussi l'équilibre pied-main et son œil. Et donc, du coup, je vais pouvoir le placer idéalement face à un tableau.
D'accord.
Ce qui va permettre vraiment...
Pour les auditrices, auditeurs de radio et la mission à ta santé, tu as parlé de l'œil...
Directeur neurologique. Qui n'est pas forcément le même que celui qui est ophtalmique.
D'accord. Est-ce que tu peux en dire un petit mot ? Parce que là non plus, de mon côté, je ne sais pas ce que...
L'œil directeur ophtalmique, c'est celui qui sert à viser.
D'accord.
Donc la vision de loin. Et l'œil directeur neurologique, c'est lié au cerveau. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais...
D'accord. Mais enfin, c'est celui, en tous les cas, sur lequel le plus important... Au niveau de l'écriture, c'est
ça. Oui, tout à fait, c'est ça.
C'est celui qui commande et qui voit.
Mais ce n'est pas forcément le même que celui qui sert à viser.
D'accord. Donc c'est important de le signaler. J'ai lu aussi, donc, ça pouvait être dû à les causes de la dysgraphie, hein, c'est toujours ça dont nous parlons, à une dystonie de fonction appelée aussi crampe de l'écrivain. C'est-à-dire, effectivement, là, on en revient à la douleur. Alors, est-ce que cette douleur au niveau d'une crampe est due essentiellement à une mauvaise tenue uniquement.
Oui.
C'est uniquement dû. Donc, il suffit juste de modifier
sa préhension du stylo et son placement de la feuille, en fait.
D'accord.
Puisque là aussi, l'œil neurologique va avoir une importance. On a tendance, quand on est à l'école, on nous dit qu'il faut mettre le cahier bien droit face à soi et écrire. Voilà, c'est la règle. Et justement, non. Parce que du coup, on se bloque et on ne peut pas écrire dans le mouvement. Donc, suivant l'œil neurologique, soit on doit incliner la feuille,
d'accord,
soit la décaler complètement à droite, soit complètement à gauche pour les gauchers, complètement à droite pour les droitiers.
Et pour être concret, on ne fait pas bouger la feuille. On la pousse, on la met d'un côté ou de l'autre. Et après, on écrit parce qu'on est plus à l'aise pour écrire de cette façon-là.
Mais à cause de l'équilibre pied-main et œil neurologique.
Donc, je me souviens, c'est un souvenir très très lointain, quand j'étais à l'école. École primaire, je m'en souviens bien. En plus, j'avais un ami, un copain, pour ne pas le citer, hein, je me souviens même de son prénom et de son nom, mais j'en ferai grâce aux auditrices et auditeurs, mais qui était, lui, carrément couché sur sa feuille. Est-ce que c'est une bonne attitude?
Ah non. On doit être assis aux deux tiers de la chaise, espacé du bureau. Et après, voilà, on est plus libre et la feuille, ben, en fonction de l'œil neurologique, je vais la placer au bon endroit.
Mais alors, il le faisait pour quelle raison?
Soit parce qu'il est très fatigué. C'est une possibilité.
Ça arrive, malheureusement, à l'école.
Ah ben oui. Soit parce qu'il était pas bien à l'aise sur sa chaise ou il était mal placé et donc du coup, il avait tendance à essayer de s'équilibrer autrement, en fait.
Donc, admettons que ce soit une mauvaise posture. Donc, cette personne-là vient chez toi. Les parents l'amènent, ce petit garçon qu'il était à cette époque-là. Et donc, là, tu travailles donc sur cette posture.
Oui.
Et dès lors qu'on va arriver à modifier cette posture, on arrivera. Parce que, incontestablement, je dois dire que j'étais souvent à côté de lui et il n'écrivait pas bien. Enfin, ça, c'était mon jugement. C'est pas joli, hein, Mais justement,
qu'est-ce que ça veut dire écrire bien?
Je ne sais pas. J'avais l'impression d'écrire mieux que lui. À l'époque.
Mais je ne juge pas cette écriture-là, en fait. Donc moi, voilà, c'est vraiment une des questions. C'est quand les parents me disent, oui, il n'écrit pas bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
D'accord. Mais là, c'est pas bien ou pas bien. Enfin, donc, si tant est que on récupère une bonne posture. Donc, nécessairement, il va se sentir mieux.
Oui.
Peu importe après, s'il gagne...
Mais il va y gagner aussi, voilà, en lisibilité. Parce que forcément, il va pouvoir voir son écriture. Parce que quand on est couché, on ne voit pas ce qu'on écrit.
Bien sûr, oui, il était gêné. On sentait bien qu'il y avait quelque chose
qui ne peut pas avancer.
Qui dysfonctionnait. À cette époque-là, j'étais bien trop jeune.
Et quand on récupère une bonne posture, on voit ce qu'on écrit. Et donc, forcément, l'écriture s'en ressent.
Ensuite, toujours dans les causes, une atteinte du geste graphique due à une pathologie, hein, on peut la citer, peut-être pas la seule, hein, mais celle est en tous les cas, la maladie de Parkinson, hein, un impact considérable sur l'âge aussi. Et donc là-dessus, on peut faire chez toi aussi de la rééducation pour se rapproprier son écriture.
On va commencer par écrire... dans du sable, par exemple, pour bien sentir.
Parce que, ici, au micro, dans cette émission, on a déjà fait une émission, ou deux, peut-être, non, une seule, j'en suis sûr, sur la maladie de Parkinson. Et en tous les cas, Mireille, qui était l'invitée, a bien, bien, bien répété longuement que, évidemment, elle faisait beaucoup, en tous les cas d'orthophonie, mais aussi beaucoup d'exercices écrits, à écrire des mots, à réécrire, etc., pour continuer à pouvoir écrire correctement. Parce qu'au fur et à mesure, on sent bien, je ne sais plus quoi dire, parce que là, j'ai été frustré par Valérie, mais en tous les cas, elle sentait bien qu'elle, cette personne, quand elle est venue témoigner, qu'elle écrivait de moins en moins bien. En tous les cas, les gens n'arrivaient plus à la lire. Donc là, aujourd'hui, avec un entraînement et en venant chez toi, on peut conserver cette écriture.
Voilà, c'est important de garder le geste d'écriture. L'écriture est importante parce que justement, elle est à se sentir bien, elle va aider sur l'orthographe, elle va aider. Et puis le mouvement est important. En fait, il faut mettre son corps en mouvement et l'écriture, c'est l'idéal, quoi.
Bien sûr. Donc on peut dire, Valérie, aux malades atteints de maladie de Parkinson, qui peuvent venir chez toi sans modération, j'allais dire, pour
regarder ce geste.
Ce geste qui est très important parce qu'effectivement, c'est aussi très important pour eux d'être entendus, compris, dès lors qu'ils parlent, mais d'écrire aussi.
D'écrire, c'est important. Hein, ouais.
Dès qu'on perd cette écriture, dès qu'on perd, c'est une coupure hein, avec le monde extérieur. Hein.
On perd un moyen de communication et important. Oui.
Très important. Voilà. Et puis aussi, quelque chose d'intéressant, ça va, je pense, à mon avis, exciter l'attention de nos auditrices et auditeurs. En tous les cas, ce qu'on appelle les enfants à haut potentiel, parce que justement, ils fonctionnent trop vite. Et donc, le cerveau allant trop vite, la main n'arrive pas toujours à suivre correctement.
J'ai un cas.
Oui. Et alors, donc, ça
va dans le bon sens. Ça progresse rapidement, oui. Puisque du coup, lui...
tout
voilà,
va vite.
Voilà, tout va vite. Quand on lui dit quelque chose, c'est réussi de suite.
D'accord. Donc,
oui, ça marche aussi pour...
Donc, ça sera effectivement pour ses parents, parce qu'on en entend souvent parler, effectivement, de la part de ses enfants dits à haut potentiel. Je ne sais pas, on parlait d'enfants précoces, etc., dans certaines années, mais dont l'écriture, alors je ne dis pas si elle est belle ou pas belle, en tous les cas, mais ils ont souvent cette difficulté.
Ils ont un problème de lisibilité, oui.
Oui, de lisibilité, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est une plainte, en tous les cas, peut-être plutôt émise par le corps enseignant ou les parents, pas toujours, en tous les cas, par l'enfant. Voilà, donc n'hésitez pas.
Rarement
par l'enfant, oui, j'en suis sûr. Oui, parce que lui, finalement, il arrive à se comprendre.
Non, le patient que j'ai me dit qu'il a du mal à se relire aussi. Ouais.
D'accord.
Donc il a quand même conscience hein, qu'il a du mal à se relire, qu'il faut que ça change. Et puis il a bien conscience que, au niveau de la scolarité, c'est
l'enfant
compliqué.
Qui a quel âge, Valérie ?
Il a 12 ans.
12 ans, d'accord.
Il est au collège. Et c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est compliqué parce que les enseignants s'en plaignent, en fait.
Et oui.
Et la solution de facilité qui lui a été proposée, c'est l'ordinateur.
Ah. Pourquoi voilà. pas oui, là, à mon avis, oui. Pourquoi pas. Mais enfin, on va pas arriver à corriger.
Non.
Et je pense que c'est important quand même d'écrire. Hein,
c'est une solution de facilité qui lui a été proposée.
D'accord. Et tu en penses quoi de cette solution de facilité?
Ça reste une solution de facilité et je ne suis pas d'accord.
Voilà. Bon, c'est important à dire, je m'en doutais un petit peu. Bon, donc est-ce que Valérie, on peut dire que quand on a l'âge que j'ai et que j'écris et que quelquefois j'essaie de me relire et que je n'y arrive pas, est-ce que tu conseillerais à toutes ces personnes comme moi de venir te consulter?
Ah oui, je conseille effectivement de venir, mais... Après, voilà, vraiment, gagner en posture, ça permet vraiment d'améliorer la lisibilité de l'écriture.
Et ne pas écrire trop vite, peut-être.
Alors, il faut écrire un certain rythme, quand même.
Qui est le sien, dans son rythme. Trouver son rythme.
Qui est le sien, mais il faut à peu près écrire 130 signes par minute.
D'accord.
C'est pas facile.
Oui, c'est déjà... Oui.
C'est un bon rythme.
D'accord. Donc, je vais essayer de m'y employer. Après, Valérie, tu aurais donc ce petit garçon donc à haut potentiel dont on vient de parler, 12 ans, que tu suis. Est-ce que tu aurais encore comme ça, juste pour décrire une situation qui pourrait imager encore mieux ce qui se passe lorsqu'on vient te consulter dans ton cabinet et qu'on bénéficie de la graphothérapie? Est-ce que tu aurais une petite anecdote ou un exemple avec un patient, une patiente?
Déjà, la concentration qui est importante. Donc effectivement, je fais quelques petits exercices de respiration, même si je ne m'y connais pas trop là-dessus, mais j'en fais quelques-uns et j'utilise la méthode du docteur Vitose, et, qui marche, mais à tous les coups, pour les enfants qui sont très agités.
D'accord. Et est-ce que tu peux, pour auditrices et auditeurs, dire de quoi il s'agit pour la méthode Vitose ?
Ben, en fait, les deux exercices que je pratique, c'est un escalier qui est dessiné sur une feuille.
D'accord.
Et quand on monte, on inspire. Et quand c'est le trait droit, le trait horizontal, on souffle. Et donc, on fait toutes les marches comme ça, du bas jusqu'en haut. On le fait en descendant, en montant, en descendant. Et ça marche très bien. On le fait 2-3 fois, ça suffit. L'enfant, il est apaisé, il est attentif. Et ça fonctionne.
D'accord. La respiration, de toute façon, je l'ai dit au début et dans chaque émission,
il n'y a pas de secret, oui.
C'est, à mon avis, quelque chose de tout à fait indispensable, se réapproprier sa respiration. Mais c'est vrai que parfois, il est nécessaire d'aller consulter pour au moins récupérer sa respiration, savoir comment respirer, parce que chacun d'entre nous, on respire un peu trop court. Donc c'est vraiment dommage.
Oui,
et
c'est ça.
Permet pas
c'est... On inspire et quand on souffle, ouais. C'est... Alors qu'en fait, il faut souffler...
Mais oui, et puis c'est tellement bon et tellement efficace, en tout cas, ça fait un bien fou.
Ah oui.
Donc dans toute activité de thérapeute, je pense que la respiration est au centre, même pas uniquement, mais en tous les cas,
on fait partie.
Il faut respirer, voilà. Donc maintenant, on va souffler justement. On va respirer, on va faire une deuxième respiration musicale avec une reprise du morceau. Parole, bien sûr chantée initialement par Dalida, une très grande dame de la chanson française, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons écouter une reprise chantée par Monica Bellucci, morceau issu de l'album de Dalida by Ibrahim Malouf, qui est un grand trompettiste. Hein. On va écouter, c'est vraiment très très beau. On se retrouve dans cette belle émission à ta santé, juste après.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je sais plus comment te dire,
rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain,
bien trop beau.
T'es toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme les vents qui fait chanter les violons et emporte loin les parfums des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
T'es parlé comme la première
encore
fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve et défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes. déjà, je t'inventerai.
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Et nous voilà de retour dans l'émission À ta santé sur le thème la graphothérapie en compagnie de Valérie. Et donc nous n'avons pas encore parlé du tout, et je pense que c'est très important, Valérie va nous vous le confirmer, du mobilier, la position, la chaise, le bureau, tout ça ont une importance capitale pour bien écrire. Quand je dis bien, c'est pas pour que ce soit joli, hein. J'ai bien retenu la leçon, mais pour bien écrire.
Alors, tout à fait, Thierry. C'est très, très important, le choix du mobilier. Et dans mon passé, et même actuellement, j'ai beaucoup de parents, pour faire plaisir à leur enfant, ils ont acheté un mobilier neuf pour la rentrée, avec un bureau, une chaise. Et quand j'arrive, je leur dis « Ah, ben non, ça va pas, en fait. » Donc, le choix du mobilier est très, très important. Et il faut vraiment emmener votre enfant ou votre adolescent faire les magasins avec vous.
Il faut essayer.
Et on commence par essayer la chaise et que l'enfant, il ait les pieds qui touchent à plat le sol. Vraiment. D'accord. Et alors, le mieux, c'est quand même une chaise qui soit réglable en hauteur parce que sinon, ça fait un coût financier énorme. Et qu'on puisse augmenter en fonction de la croissance de l'enfant, en fait. Mais on fait essayer l'enfant, il faut qu'il ait les pieds au sol, à plat.
D'accord.
Et une fois qu'on a ça, on va chercher le bureau qui va avec. Donc, un bureau, forcément, il ne faut pas que les genoux touchent le plateau.
D'accord.
Ou des fois, comme c'est le cas dans les écoles, il y a un casier en dessous du plateau. Et le problème qu'il y a, c'est que les enfants touchent ce casier avec leurs genoux. Et ce n'est pas bon.
D'accord.
En fait, il faut vraiment qu'il soit en dessous, bien en dessous.
Ça, ce sont des conseils importants, hein, c'est vrai, en tous les cas. La position, la bonne assise, la chaise avec donc les pieds
un dossier,
bien à plat,
c'est mieux.
Dossier, et quelque chose et qui tourne, qui ne tourne pas.
Pas de roulette.
Pas de roulette.
Comme ça, au moins, on est stable, il n'y a pas de souci. Voilà. Le choix de la lampe aussi est important.
Oui, bien y voir, bien sûr.
Bien y voir. Alors,
deux sources d'éclairage, un sur le bureau et un derrière soi, peut-être. Non.
Alors moi, je préconise déjà de mettre le bureau proche d'une fenêtre.
D'accord.
Déjà, tant qu'à faire, pour pas que l'enfant ait dos à la lumière. Et la lumière du jour est tellement importante qu'il faut...
Oui, mieux, effectivement, pour...
Voilà. Et la lampe qu'on met sur le bureau, alors si on est gaucher, il faut mettre la lampe à droite.
D'accord.
Et si nous sommes droitiers, on la met à gauche. Et c'est pour ça qu'une lampe qu'on pose sur le bureau... Et pas forcément réglable en intensité, hein, qui est toujours la même intensité. Et après, au choix, une lumière blanche ou une lumière jaune. Voilà.
D'accord.
Mais qu'on y voie vraiment, vraiment bien.
Donc ça, sont des recommandations très, très intéressantes et importantes qui déjà positionnent correctement de manière déjà à pouvoir appréhender une bonne écriture. On parlait aussi tout à l'heure, on a parlé de stylo. Pas de stylo 4 couleurs. Hein.
Pas du tout. De stylo de 4 couleurs parce qu'ils sont trop gros, en fait. Et pour les enfants, c'est compliqué.
D'accord.
Donc il vaut mieux des stylos un peu plus fins. Il y a des stylos ergonomiques qui existent.
Oui.
Donc, je ne citerai pas de marque.
Qu'on trouve partout ?
Qu'on trouve en grande surface, oui.
En grande surface, y compris, donc partout. Donc,
voilà. Certains sont effaçables, parce que c'est avec des cartouches d'encre classiques, comme de stylo plume. Voilà. Où il y a le positionnement des doigts.
Oui, je vois.
Et donc, c'est beaucoup plus simple pour les enfants, parce que déjà, ils mettent leurs doigts au bon endroit.
D'accord.
Voilà. Et ça existe pour les gauchers et pour les droitiers. Par contre, il faut bien lire l'emballage. Parce que celui de gaucher est identique à celui de droitier. Enfin, il y a une spécificité, bien sûr, mais quand on a les deux visuellement dans le magasin, on ne fait pas la différence. Il faut bien lire pour gaucher ou pour droitier.
D'accord. Mais voilà, des petites... Donc,
ça, c'est pour écrire. Il faut savoir que ça existe aussi pour les crayons.
Oui.
Il y a des crayons ergonomiques qui existent.
Des crayons, c'est-à-dire crayons de couleur, feutre...
Crayons de papier et crayons de couleur.
D'accord.
Il y a également des paires de ciseaux qui existent pour gaucher et pour droitier. Donc, bien attention.
Ah oui,
aussi.
Parce que couper avec des,
ah, moi,
des
j'y arrive ciseaux pas,
de gaucher
j'ai
quand on est droitier,
ça n'y arrive pas.
Un exercice combien compliqué.
Ah, j'ai même essayé de prendre le ciseau de la main gauche du gaucher, je n'y arrive pas.
Donc voilà, on n'a peut-être pas fait le tour de toute ce qu'on pouvait dire sur la graphothérapie. Le mieux, c'est sans doute de venir te voir aux journées portes ouvertes.
Oui, vendredi et samedi, de 9h à 18h30.
Voilà, le 17 donc, et le 18 janvier prochain. Hein, n'hésitez pas, ça sera une bonne façon de rencontrer directement Valérie, de comprendre encore mieux. Et puis n'hésitez pas, donc à la fin, on va redonner toutes tes coordonnées, téléphone et comment, ton adresse, comment pouvoir aller te rencontrer. Voilà, merci. Mais l'émission n'est pas terminée. Juste une peu encore... quelques petites minutes pour se plonger dans la rubrique Info Santé pour vous dire que le premier docteur virtuel est né. Et oui, ça fait peur, mais c'est ainsi. Il est déjà à l'essai. Alors, il a une image représentant une personne qui bouge, qui parle, pose des questions, écoute les réponses même. Ça, c'est impressionnant. Ne juge pas. Il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais interrompu, sauf en cas de panne d'électricité. Voilà. Alors, il a vu le jour à Bordeaux. On peut en être fier, en tous les cas, je ne sais pas, au laboratoire du CNRS. Et il est à l'essai, je vous rassure. Il n'est pas encore en état complètement de fonctionner. Voilà une info brute. À vous de réagir. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, le modernisme, le progrès avance à grands pas. Je voulais aussi faire un petit focus sur l'auto-hypnose. Alors, c'est quoi cette auto-hypnose ? L'hypnose médicale à l'auto-hypnose, il n'y a qu'un pas que l'on peut franchir seul, je pense que ce n'est pas conseillé, à l'aide d'ouvrages ou avec le soutien d'un praticien. Il faut compter deux consultations chez un hypnothérapeute pour devenir autonome. Peut-être un peu plus, enfin, ça vous verrez avec le thérapeute. Et surtout, j'ai envie de dire que c'est très intéressant, surtout après les fêtes, pour éviter ou diminuer les compulsions du chocolat, entre autres, ou d'autres formes de compulsions, ou d'autres addictions, etc. Alors n'hésitez pas à contacter un hypnothérapeute, et si vous n'avez pas de nom, contactez-nous ici, nous pourrons vous mettre en relation, vous donner les coordonnées d'hypnothérapeute. N'hésitez pas. Voilà. Je voulais aussi faire une petite brève aussi sur l'opération, si je retrouve ma fiche, sur l'opération de la thyroïde en tous les cas, tant pis, je le ferai la prochaine fois, j'ai perdu, excusez-moi, ma fiche, mais l'opération de la thyroïde qui maintenant, ça vient de Thaïlande, qui se fait sans cicatrice. On fait deux petites incisions, on passe une petite caméra et on va travailler au niveau de la thyroïde et on n'a pas de cicatrice notoire. Voilà, je reviendrai peut-être dessus parce que je voulais en dire un petit peu plus, mais... Non seulement, quand j'écris, j'ai du mal à me relire, mais en plus, j'ai garanti mes fiches. Et puis surtout aussi, pour faire le lien avec l'émission précédente, qui était « Comment drainer au mieux son foie ?», je disais effectivement dans cette émission que l'alimentation était vraiment quelque chose de très très important. Donc j'aimerais faire un focus appuyé sur les agrumes. Alors, cette famille de fruits juteux qui ne comprend pas seulement le citron vert, l'orange ou le pamplemousse, mais aussi la tangerine, la mandarine, certains fruits moins courants comme le pomelo, et le kumquat. Voilà. Donc ça, cette famille donc regroupée au sein de la grande famille des agrumes. Alors, quels sont les bienfaits de ces agrumes ? Alors, notamment le citron, il est très très bon pour les calculs rénaux, car en effet, il a une concentration très très importante en citrate et qui, consommé en jus de citron dilué, permet de réduire la formation de calculs. Et je vous garantis, c'est très très efficace. J'ai des témoignages autour de moi vraiment très très poignants. Le jus d'orange aussi peut également être employé. Pour le cœur, les agrumes contiennent beaucoup d'hespéridine et peuvent assez atténuer notamment l'hypertension. Il y a aussi beaucoup de pectine et des composés limonoïdes qui sont capables de ralentir le développement de l'artériosclérose. L'artériosclérose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le durcissement des parois artérielles. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et ça peut aussi, notamment, ces limonoïdes et pectines, réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Alors, il y a aussi beaucoup d'antioxydants sous forme de flavones qui peuvent diminuer le risque d'accident vasculaire, l'AVC, et principalement chez les femmes. Alors ça peut soulager, mais ça c'est un peu plus connu, mais effectivement, les indigestions, hein, ça j'en ai parlé déjà la semaine dernière, notamment pour soulager et aider notre foie à bien éliminer les substances toxiques. Alors ce qui est plus intéressant, ce que je découvrais en préparant cette émission, c'est qu'il faut boire de l'eau chaude. Voilà, additionné avec du jus de citron, ça peut éviter donc les brûlures d'estomac, les nausées, le reflux gastrique et les maux de ventre. Voilà. Et puis, pareil, alors ça, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas de témoignage poignant autour de moi, mais aussi des vertus antiparasitaires. En tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que le citron, il est alcalinisant et détoxifiant. Donc, et en fait, évidemment, il enlève toute l'acidité dans le corps. Donc, il va lutter contre les inflammations, contre les œdèmes, les rétentions d'eau, les enflures, etc. Et il peut être aussi antibactérien. Donc voilà tout un tas de bonnes raisons de consommer, le citron ou les agrumes en général, puisqu'on est dans la même classe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser notamment le zeste d'agrumes, hein, qui regorge, lui, en son sein, plein d'antioxydants et qui, effectivement, auront beaucoup d'intérêt pour lutter contre les fameux radicaux libres. Il va aussi avoir une vocation à régulariser la glycémie et favoriser la santé, notamment de la glande thyroïde, dont je viens de vous parler au niveau de l'intervention chirurgicale. Alors la vitamine C est contenue, et on le sait que chacun d'entre nous, qu'il y a beaucoup de vitamine C contenue dans les agrumes, aide notamment l'organisme à assimiler, et ça c'est vraiment très très intéressant, à assimiler le fer non héminique, à savoir le fer contenu dans les sources végétales, comme les légumes, puisque effectivement il y a le fer en apport protéine, hein, protéine animale, et là celui-ci effectivement va aider à absorber encore mieux le fer contenu dans tous les végétaux. Et puis comment l'utiliser? Donc voilà, et je vous le répète, buvez-le en boisson chaude pour démarrer à fond et du bon pied la journée. Vous additionnez un verre d'eau chaude. Je ne sais pas si c'est si simple que ça à faire, parce que l'eau chaude le matin, c'est pas gagné. Mais en tous les cas, il paraît que ça nettoie et que ça alcalinise l'organisme. Donc c'est cette vertu d'être alcalin, c'est donc pas acide, et c'est vraiment ce que l'on recherche le plus pour éviter tout un tas de problèmes de santé. Voilà, donc la page se tourne vis-à-vis des agrumes. Il va être temps maintenant, Valérie, de conclure cette belle émission en ta compagnie. Donc tout d'abord, un immense merci de nous avoir fait découvrir, parce que c'était vraiment une découverte en ce qui me concerne, et je pense aussi pour les auditrices et auditeurs d'Eau de Radio, nous avoir fait découvrir avec facilité et légèreté, j'avais envie de dire, la graphothérapie. J'espère qu'on aura donné envie à toutes les auditrices et auditeurs de venir te voir très prochainement dans ton cabinet à ce nom. Si tu veux rajouter quelque chose.
Non.
Redire ton adresse peut-être, numéro de téléphone.
Le cabinet est situé au 29 rue de la Paix à ce nom. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 86 75 41 27.
D'accord. Donc on va le remettre, on va l'inscrire un peu partout pour que tout le monde puisse courir très vite dans ton cabinet. Merci Nicolas pour ta participation. Merci beaucoup. Sans toi, l'émission n'aurait pas pu avoir lieu. Le technicien, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans chaque émission de radio. Et maintenant, c'est le moment, tant entendu, des cadeaux. J'avais parlé sur ma page Facebook. En effet, Eau de Radio et l'émission État Santé sont heureux de vous offrir la possibilité de consulter gratuitement un oligothérapeute à Saint-Médard-en-Jalles tous les lundis matins de 9h à 12h30 et uniquement le jeudi matin de 9h30 à 12h30. Pour cela, vous pouvez nous contacter au 06 19 24 77 deux fois ou sur le site oligo-équilibre.fr. Donc je répète, oligo-equilibre.fr ou sur la page Facebook À ta santé. N'hésitez pas, prenez rendez-vous jeudi matin. Alors pour tous ceux qui nous écoutent en podcast sur l'application SoundCloud en tapant À ta santé sur Eau de Radio, et puis je les remercie tous parce qu'ils sont évidemment de plus en plus nombreux, vous pourrez évidemment bénéficier de cette offre aussi. Elle vous est destinée même si vous écoutez en podcast. Voilà. Et puis, quel est l'intérêt, effectivement, de prendre rendez-vous ? Ben, c'est de bénéficier d'une thérapie complètement naturelle qui s'adresse à tous, quel que soit votre âge, à base uniquement d'oligo-éléments. Quel que soit votre problème de santé, une réponse adaptée et personnelle existe avec l'oligothérapie. Voilà. Donc cette émission du jour, en compagnie de Valérie, sera disponible dès ce soir sur l'application SoundCloud, dit avec l'accent anglais qui me caractérise. Vous y trouverez maintenant près de 30 émissions avec des thèmes très variés, tous passionnants, bien sûr. Allez-y, vous en trouverez forcément. Vous trouverez sûrement un thème qui vous correspond pleinement. N'hésitez pas. Écoutez-nous, bien sûr, en direct, tous les lundis de 17h à 18h sur Eau de Radio 91.3, la radio des Hauts-de-Garonne, et en podcast sur le SoundCloud. Ça, je vous l'ai déjà dit. Partagez, partageons, profitez de ce bon cadeau. Hein. Prenez rendez-vous avec un oligothérapeute gratuitement. N'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement toutes et tous de votre écoute, évidemment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous communiquerai le thème de la prochaine émission de la semaine prochaine sur notre page Facebook À ta santé. Et maintenant, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de tous vos proches, c'est très important. Respirez à fond, vivez à fond, écrivez à fond, j'aurais pu rajouter, ou en tous les cas, écrivez le plus possible et de manière le plus lisible possible. Écoutez en tous les cas À ta santé, c'est la santé toute l'année et c'est garanti. Et pour finir, je voudrais ajouter tout est possible, et je rajoute souvent, ou presque. Bonne semaine, bye bye, générique, Nicolas, merci.